la lecture de la Kabbale. Et on se trouve que dans le cas particulier, j'ai pas mal étudié des systèmes philosophiques, en particulier les systèmes orientaux, plutôt de tibétains. Je trouve qu'actuellement, je suis en train de lire la Kabbale, sans être passé par une lecture hébraïque, si vous voulez, parce que j'ai une Bible et une petite formation en culture hébraïque.
Là, je pense par ailleurs porter en moi quelque chose qui m'amène à dire ces choses-là, et qui m'amène à terme, si je voulais, à découvrir ces choses-là. Et il se trouve que deux attitudes susceptibles pour découvrir la Kabbale, d'une manière entre guillemets empirique, si vous voulez. La première consisterait à passer par une sorte de revue de la littérature, comme on dit à l'université, des différents travaux sur la Kabbale, donc lire un peu les travaux en particulier de Scholem et d'autres éminents kabbalistes que vous connaissez certainement de fois. Et l'autre lecture, une lecture peut-être plus brute, plus naïve, qui consiste à prendre, pour ceux en particulier qui ne sont pas hébreux, une traduction, la moins mauvaise possible, sauf que le plus d'efforts, en fait, des gens de pays, c'est que je dis actuellement, et de découvrir à travers, si vous voulez, une lecture directe et immédiate d'un texte, par, à travers un choc immédiat avec un texte, une réalité, et ce qui se passe. Et il se trouve, si vous voulez, que, sans chercher à dire que, par exemple, on trouverait des filiations qui migraient effectivement une authenticité d'un discours primitif, une révélation, comme on dit, mais certaines convergences apparaissent très nettement entre cette lecture que j'en ai et mon fond culturel hérité de lecture de systèmes philosophiques. C'est de fortes convergences.
Vous avez dit tout à l'heure que je ne comprends pas cours de mystique extrême orientale. C'est votre mystique.
Il y aura
un
problème de dit
oui. J'ai pas encore répondu, continuez.
Oui. Alors, ce que je veux dire exactement, c'est que la lecture, une lecture directe et immédiate de ce texte conclut certains vertiges philosophiques assez forts, si vous voulez.
Bien.
En particulier sur la non-dissociation entre l'éconception d'un objet qui serait entre moments, qui nous serait aussi extérieur. Et l'être proprement, si vous voulez, et je crois que pour revenir au thème du mal, peut-être qu'il y aurait-il à voir la convergence entre l'être que nous sommes et le jeu, comme non-dissociation, une explication du mal. Faire mal au esprit, être sûr du mal, c'est peut-être faire mal à quelque chose qui procède à l'être humain, donc se retournerait si vous voulez.
Bien. Écoutez, vous avez dit beaucoup de choses, et je ne sais pas si j'ai eu le temps de noter ne serait-ce qu'une partie, et vous excuserez ma mémoire immédiate déficiente. Mais vous avez proposé deux méthodes que vous avez vous-même très bien définies, je ne vous cache pas, c'est évident, je préfère la deuxième. Mais même dans la deuxième, faites bien attention à cela. Vous avez dit vertige, c'est un mot que je ne crois pas être un lapsus, qui est un mot exact, et qui est important. On reste encore, j'ai eu ces expériences d'autre part, on reste encore à un niveau d'expérience mystique et littéraire importante en soi, qui sont des expériences culturelles indéniables. On reste encore à la surface. Et si j'ose dire, et des textes tibétains traduits et des textes hébreux traduits. Parce que, ça, encore une fois, on ne peut parler que de l'expérience, parce que, il y a précisément le risque systématique, même lorsqu'il ne s'agit pas d'une lecture universitaire, d'une traduction en atmosphère des présupposés philosophiques qui est permanente. Et je crois que l'expérience que vous avez décrite est positive, un peu dans le sens de Mitor sur l'Ishma Valishma comme palier. Et elle est bien préférable d'ailleurs à la première. Mais je me permets quand même de vous répéter que vous auriez un vertige beaucoup plus serein, si j'ose dire, quand vous accéderez, et c'est facile, dans la langue originelle. Et votre fond atavique auquel vous avez fait allusion très légitimement et avec raison en serait d'autant plus satisfait. Maintenant, je ne veux pas parler de l'allusion à l'anthropomorphisme, c'est absolument extérieur au discours de la kabbaliste malgré les apparences. Et il ne s'agit pas seulement... vous savez, il y a un de ces systèmes que je connais un peu, c'est le bouddhisme. Il ne s'agit pas seulement de ne pas faire de mal à autrui, mais surtout, et aussi, pas surtout, mais aussi de ne pas faire de mal à l'être humain en soi. c'est-à-dire à soi-même. Or, le judaïsme a refusé ces tentations qui sont assez générales en Extrême-Orient, de refuser l'histoire, d'arrêter l'agir, afin d'arrêter les risques de souffrance. Parce qu'il y a une histoire qui doit se faire. Ce qui est encore un autre sujet. Ce que les mystiques appellent l'équanimité, en particulier, a été refusé en sens propre par la tradition juive, parce que la tradition juive sait et sent et porte le fait qu'il y a un projet à faire aboutir. Et que toute conduite spirituelle dont le résultat est d'arrêter l'histoire apparaît comme blasphématoire. C'était un point que je voulais préciser, mais quoi qu'il en soit, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous entendre. Bien, écoutez, si vous me permettez, le sujet n'est évidemment pas épuisé, j'espère que vous non plus, mais on se retrouvera demain. Avant cela, j'ai quand même une indication répétée, c'est que pour des raisons... Et comme je l'ai dit hier soir en commençant, nous abordons des sujets difficiles, encore une fois, non pas tellement parce qu'ils sont difficiles en eux-mêmes, mais parce qu'il y a eu énormément de discours à travers tout le temps culturel qui nous sépare de l'arrêt de la prophétie, comme nous l'avons vu hier soir, et que ces discours s'entremêlent un peu dans le vocabulaire qui est employé en traitant de ces problèmes. En tout cas, le sujet de ce soir est intitulé « La restauration des mondes ». Pour l'aborder, je vais résumer très brièvement les notions principales que nous avons vues hier soir, et elles sont au nombre de trois. J'aurai donc à reprendre la traduction des termes hébreux qui les désignent et leur description générale, et ensuite nous entrerons dans l'analyse du sujet lui-même. Nous étions partis de la notion de « chaos ». Si vous en souvenez bien. Le terme de chaos, je le rappelle aussi pour les hébraïsants, se dit en hébreu de l'hébreu biblique, tohu va bohu, ce sont deux termes qui ont une signification bien précise dans le vocabulaire de la Kabbalah, qui est donc le vocabulaire de l'hébreu biblique, et vous trouvez soit le décalque tohu bohu, soit le terme de chaos, qui vient du grec, mais qui a une signification suffisamment analogue pour que nous puissions l'employer. Or, le texte de la Torah, le texte de la Bible, nous indique très directement que le chaos dont il parle n'est pas originel, la création venant organiser un chaos antérieur, mais que le chaos est le résultat du fait d'avoir créé. Cette notion de créer est habituellement connue en philosophie générale, dans le vocabulaire général, dans la signification de création ex nihilo, de créer l'être à partir du néant. Et immédiatement, nous nous sommes heurtés à une difficulté déjà d'ordre intellectuel, que cette notion est objet de foi pour la pensée de l'homme en général, aussi du théologien qui se sert du discours philosophique, mais le discours de la Kabbalah va nous la rendre intelligible en y faisant précéder une notion absolument inverse qui s'appelle en hébreu le tzimtzum, et que je traduis, c'est la rétractation de l'être absolu antérieur à tout sur un point de son être. Je vous signale déjà que chacune, au fond peut-être chacun des mots de ces phrases, implique des études très longues en voie dans différentes directions, dans des perspectives d'analyse qui sont les objets des études kabbalistes, et je me borne à résumer en idées très générales pour arriver à des schémas simples pour pouvoir nous approcher du sujet essentiel de la façon, disons, la plus aisée. C'était un premier principe très important, je pense, que nous avons vu hier soir. Pour comprendre le récit biblique et comprendre comment il nous rend intelligible notre propre destinée dans le monde qui est le nôtre, il faut d'abord faire précéder à la notion de création de l'être à partir du néant, la notion de néantisation d'un point de l'être absolu. Et ce principe est que l'être précède l'histoire du monde. J'employais un mot qui, encore une fois, a des sens différents dans des discours différents, un mot, disons, neutre provisoirement, l'être. En hébreu, cela se dit Havaya, alors que existence se dit Metziut. Et il est important de distinguer ces deux termes, être et existence, Havaya et Metziut. L'être, c'est l'être absolu, que les kabbalistes s'habituent très rapidement à désigner par le terme de Ensof, l'infini, et vous remarquerez, je reviendrai tout à l'heure, qu'il s'agit d'une formulation négative, Ensof. Il n'y a pas de fin, de terme à quoi que ce soit du point de vue des valeurs de l'absolu d'être. C'est une notion qui n'est pas simple pour elle-même, mais le mot français infini lui-même reprend cette forme négative, infini, comme si nous n'avions, pour la raison humaine livrée à ses propres forces, que la capacité de comprendre le fini et par inférence, même lorsqu'on arrive à un concept positif et pas seulement négatif, par inférence de faire allusion à l'infini. Cependant, dans l'hébreu biblique, il y a un terme très précis, positif, que je rappelle, qui est très employé, qui signifie commencement dans les traductions de dictionnaire, le mot Réchit ou Bereshit au commencement. Et je voudrais prendre quelques phrases, utiliser quelques phrases pour l'éclairer très rapidement. C'est une notion propre à l'hébreu biblique et qui très directement va nous servir d'illustration pour beaucoup de points de nos analyses. C'est que ce vide qui apparaît comme résultat du Tzimtzum pour être la place où les mondes seront logés n'est pas seulement empli par l'être de créature qui vient du néant et qui de façon semble-t-il irrémédiable définitive serait entaché de ce néant, et il n'y aurait pas d'espérance parce qu'il n'y aurait pas de fin, puisque constitutivement l'être de créature ne serait que provenant du néant perpétuellement, et perpétuellement, si j'ose dire, mélangé de néant. On apprend immédiatement, aussi par le récit biblique, mais surtout par ce processus notionnel du Tzimtzum, le vide d'être qui permet la place du monde, dans cette place des mondes, l'être de monde, l'être de créature des mondes, vient du néant de façon perpétuelle, mais s'y trouve aussi immédiatement projetée une lumière qui vient de l'absolu, elle-même objet d'un tzimtzum d'un autre ordre, diminution, dilution à l'infini, de telle sorte que sa présence puisse être supportée par ce vide des mondes, place des mondes, sans annuler ce vide. Et cette lumière, elle, n'est pas Beria Yesh Me'ayin, création de l'être à partir du néant, mais une Beria Yesh Me'yesh de l'être dans notre monde, mais procédant de l'être absolu, primordial et antérieur, et qui est nommé dans le langage des kabbalistes Atzilut. Les traductions emploient habituellement le terme d'émanation. Pour dire très rapidement ceci, dans le monde du chaos, dès l'origine, le chaos étant, je le rappelle, le résultat immédiat, et j'y reviendrai, de l'être du fait de créer. Il n'y a pas que le créer. Il n'y a pas que ce tohu vabohu. Il y a aussi immédiatement présent à ce tohu vabohu ce que le langage biblique appelle la lumière, la présence de la lumière, et qui, elle, vient dans l'ordre de ce Tzimtzum deuxième manière, d'une Briya Yesh Meyesh, création de il y a à partir de il y avait, si j'ose dire, et qui est le gage de cette espérance dont je vous parlais aussi en fin d'analyse hier soir. C'est donc la première notion, celle du Tzimtzum, qui est très importante, une rétractation de l'être pour laisser place au monde, et nous avons appris qu'elle est essentiellement une notion d'ordre moral, puisque, je le rappelle brièvement encore, créer, c'est faire exister l'autre, or c'est le fondement de toute moralité et de toute valeur morale. Je l'avais signalé à propos d'une des questions, je le répète, il faut bien réfléchir à ce que l'on appelle la vocation d'Abraham. Il est ce croyant, ce confiant, plus exactement en hébreu, qui simultanément reconnaît, se connaissant lui-même, qu'il existe un créateur, et c'est très facile à comprendre. Il n'a pas besoin de philosopher pour arriver à cette conclusion, donc il y a un créateur. Il se connaît immédiatement comme créature, donc il y a un créateur. Ou en d'autres termes, il se connaît comme nous sommes, c'est-à-dire être fini, qui n'existe que dans la mesure où il reçoit l'être qui le fait exister. Il y a là une vertu d'ordre moral et spirituel, très proche de la vertu de modestie. Je n'ai pas trouvé de terme en français pour désigner cette vertu. C'est plus que anava. C'est, je le dis en araméen, c'est le terme qui me vient à l'esprit. Anpanut. C'est plus que anava. C'est plus que simplement la modestie. C'est une sorte de lucidité, de vérité, se connaissant comme il est. Je parle d'Abraham. Il connaît par là même, premièrement, qu'il a un créateur, mais qu'il est en même temps celui qui, dans ce même mouvement spirituel, fonde la conscience morale. Ceci pour illustrer de nouveau le fait que ces deux notions vont ensemble, le geste de créer et le fondement de la moralité sont la même notion en hébreu. Et s'il en est ainsi, le problème du mal que j'ai signalé immédiatement en deuxième analyse et hier soir, trouve lui aussi, dès l'origine, une racine d'explication. C'est ce que nous allons étudier plus abondamment ce soir dans le thème de la restauration des mondes, c'est-à-dire au fond, la restauration de ce chaos originel. Donc, après la notion de tzimtzum, je voudrais en indiquer deux autres immédiatement pour compléter, on va récapituler, si vous voulez, les analyses d'hier soir. Le chaos se dit tohu vabohu. Le tzimtzum, nous l'avons compris, cela veut dire cet effort d'évidement de l'être par lui-même, qui est une vertu, encore une fois, d'ordre moral, qui est le geste du créé. Et le résultat s'appelle en hébreu, je ne me souviens pas l'avoir signalé hier soir, ce vide dans lequel les mondes seront logés, et que notre vocabulaire désigne par le mot de halal. Halal qui signifie le vide absolu. Donc retenons déjà ces trois notions. Pour que notre monde existe, il faut que l'être se vide en un point de lui-même, apparaît un halal, qui est ce vide, et dans ce halal, inévitablement, le fait de créer, faire venir dans, du côté de la créature, fait apparaître le chaos, mais cette créature est garantie dans son histoire dès l'origine, parce que l'accompagne une lumière qui vient de l'être absolu, antérieur et primordial. Donc au fond, quatre termes. Bria, mais Bria, non pas seulement Yesh Me'ayin, il y a à partir de il n'y a pas, mais premièrement, Bria, Ayin, Me'yesh, il y a rien à partir de ce qu'il y avait, le Tzimtzum, rétractation d'être, et le résultat en est, du côté de la créature comme créature, l'être de chaos, mais immédiatement, vous relirez les trois premiers versets du récit de la Genèse, immédiatement la présence d'une lumière qui fait être même ce chaos, qui lui permet d'exister, mais qui est la garantie que son organisation aboutira à la restauration des mondes. Ce qui se dit, ce sera le sujet de l'analyse de ce soir, ce qui se dit en hébreu, tikkun. Et donc, notre sujet, c'est comment le discours kabbaliste a compris le tikkun, la restauration de ce tohu vabohu, de ce chaos. Et je vais donc immédiatement entrer cette fois dans un détail plus fouillé de l'analyse, vous décrire d'abord le processus du chaos lui-même. Et pour cela, je rappelle encore les deux premiers versets de la Bible, que j'ai déjà cités hier soir, en vous signalant l'étonnement qui devrait et qui, j'espère, désormais nous prendre, et donc nous prend après ces analyses, et cette allusion à la lucidité du diagnostic de notre monde par le discours kabbaliste. Au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre. Deuxième verset, et la terre était chaos. Or, le mot hébreu signifie « était devenu ». Ve'aretz haïta tohu vavu. Et la terre était devenue chaos. Comment était-elle devenue chaos? Comment comprendre que ces cieux et cette terre qui sont donnés dans le vide qui est la place du monde, au lieu d'être constitués puisque créés, commencent à exister dans l'ordre de chaos, dans l'ordre de tohu vavu? J'espère avoir été suffisamment clair pour les données du problème que nous allons commencer à analyser. Je vais faire maintenant appel à une notion très connue du point de vue du vocabulaire, qui est la notion de sphira, qu'on peut traduire en français, en tout cas provisoirement, par sphère. Il y a différents niveaux d'être, et lorsque l'être est rendu à l'intérieur de ce vide, de ce halal, et il est rendu de manière suffisamment diminuée pour être devenu autre que l'être créateur, il est l'être recevant l'être, il est l'être créature, encore une fois enveloppé de cette lumière qui lui garantit sa présence tout le long du processus de son organisation, eh bien, différents niveaux de valeur d'être sont donnés. Nous allons maintenant essayer de contempler un certain panorama. C'est une description, c'est donc une image. Et prenez-le d'abord comme une image. C'est-à-dire, c'est simplement un procédé d'exposé. Mais je dirais tout de suite, c'est quand même plus qu'une image. Et j'y reviendrai. Nous avons donc cette image d'une sphère. Par définition, ce vide qui est apparu ne peut être que sphérique. Parce que l'être absolu antérieur est substance simple, unité absolue. Si l'être absolu antérieur est unité absolue, il est évident qu'il y a homogénéité absolue. Et par conséquent, cette rétractation se fait exactement dans toutes les dimensions de la même grandeur. Et c'est donc à partir d'un point pris comme centre dans toutes les directions du plein, ce vide qui apparaît comme sphérique. Parce que, précisément, l'être absolu antérieur était un, simple. C'est très important à comprendre, pas simplement à contempler, décrire, savoir, mais à comprendre. Et je l'expliquerai en me basant sur un enseignement important du Zohar, cette fois, qui a été repris par toutes les écoles des kabbalistes, de la manière suivante. On s'est posé la question suivante. Dans quel point de cet être absolu antérieur, ce procédé du Tzimtzum est-il apparu? La réponse, et là je vous récapitule des bibliothèques entières, la réponse c'est que la question ne se pose pas parce que ce point est indifférent et il faut qu'il soit indifférent parce qu'en fin de compte, la lumière qui revient jusqu'au centre de ce vide, c'est chacun d'entre nous. Et pour qu'il y ait universel réel au niveau des créatures, il faut comprendre, il faut savoir que ce point central d'où l'être s'était retiré pour y revenir et faire la rassote, la créature, ce point est indifféremment situé de telle sorte de comprendre que chacun est le centre de cette sphère. Vous voyez donc de nouveau comment ce discours kabbaliste emprunte immédiatement le registre du vocabulaire moral, une fois de plus. Si l'on veut comprendre la spiritualité de la tradition juive, il faut comprendre, ce sera surtout le sujet de demain soir, mais je l'annonce déjà, il faut comprendre l'identification absolue entre ce que le discours philosophique appelle la métaphysique d'un côté, la morale de l'autre. La vie spirituelle de cette tradition a identifié complètement les catégories métaphysiques et les catégories morales, au point que c'est une ligne de lecture permanente. Il n'existe pas de commentaires traditionnels du texte de la Bible hébraïque qui ne soit que métaphysique ou que moral. C'est toujours unifié, nous reverrons cela plus en détail demain soir, de telle sorte que de nous faire comprendre que le sens de la destinée ne peut être séparé du problème moral et du sens de la moralité. Vous comprenez pourquoi ? Tous ces récits, commençant apparemment dans un registre métaphysique ou historique cosmogonique, débouche sur une loi qui est l'essentiel de la table des valeurs de la loi morale. Cela aussi est un genre particulier, spécifique à la tradition de la Bible hébraïque. Je pense que cette unité de ces deux registres, et métaphysique et morale, à la fois, dont nous aurons à parler plus abondamment demain soir, cette unité a été brisée dans les cultures extérieures. Il arrive parfois que certaines rémanences des traditions les plus anciennes restituent quoi que ce soit de ce souvenir de l'unité entre la métaphysique et la morale, mais en dehors de la tradition de la Kabbalah, c'est toujours ce que j'indiquais hier soir, une basculation, soit dans la poétique pure, soit dans la mystique pure, et c'est encore une fois un éclatement de l'unité de l'être, mais nous y reviendrons demain. Or, voici quelle est cette description. Nous avons appris sur les cours de, à propos des cours de texte le matin, mais je reviens brièvement, que, en principe, il s'agit là d'un processus logique. Mais que, en réalité, et j'aborde là peut-être un point un peu plus difficile, en réalité, ontologiquement, comme diraient les philosophes, ce halal n'existe pas. Je vais avoir ici quelques phrases peut-être un peu difficiles, mais vous m'interrogerez à la fin de l'exposé. Pour la raison suivante. S'il est vrai que l'être absolu antérieur est substance une, simple, absolument, alors il est impossible que cette quantité d'air qui a été retirée par le Tzimtzum du halal qui sera la place des mondes soit en surcroît d'identité dans l'être antérieur, rejeté à la périphérie de ce halal. Est-ce que c'est suffisamment clair ? C'est-à-dire, immédiatement, ce surcroît de lumière revient là où il était. Dans l'instant même où il est retiré, il revient nécessairement, parce que l'être absolu est un et simple infiniment. Et donc, ontologiquement, ce halal n'existe pas. Mais pourtant, logiquement, nous devons en parler pour rendre compte de l'existence de notre monde. La réponse des kabbalistes à cette question difficile, qui évidemment n'a pas de solution en métaphysique pure, c'est que il y a deux sens, de créateur à créature et de créature à créateur. Dans le sens de créateur à créature, ce halal n'existe pas. Dieu est seul, et nous sommes en lui, et nous faisons semblant d'exister. Vous trouverez très souvent des phrases de cet ordre, et elles ne sont pas que mystiques. Mais dans le sens de la créature au créateur, ce halal existe. Pour faire un effort, pas d'imagination, de pensée, pour arriver à maîtriser ce principe, mais nous le retiendrons lorsque nous parlerons demain soir de la manière dont la tradition hébraïque a rejeté toute idolâtrie et tout paganisme. L'idolâtrie, le paganisme, consiste essentiellement à reconnaître que toutes ces hiérarchies que je vais vous décrire existent non seulement de haut en bas, mais aussi de bas en haut. De haut en bas, c'est-à-dire du créateur à la créature, mais aussi de bas en haut, de la créature au créateur. Et lorsqu'on s'adresse à l'absolu, si l'on s'arrête à ces hiérarchies intermédiaires, c'est là la définition même du paganisme et de l'idolâtrie. Ces hiérarchies sont vraies dans un sens et irréelles dans l'autre. Vous comprenez pourquoi, par exemple, dans la prière juive, alors que la science de la tradition juive connaît ces hiérarchies, il y a interdiction absolue de s'adresser à elles comme stoppant, si j'ose dire, la prière qui doit les traverser de façon immédiate pour aller jusqu'au plus haut, à l'absolu lui-même. Vous reconnaissez là l'échec de, pratiquement, il n'y a à ma connaissance aucune tradition, sauf l'islam, qui ne soit tombée dans ce piège et qui n'ait installé comme divinité intermédiaire ces hiérarchies que je vais vous décrire. J'ai pris la précaution de vous signaler cela parce que je risque, dans les explications que je vais vous donner, au contraire, si on n'y prend pas garde, de renforcer la conviction des paganismes. C'est pourquoi j'ai bien à l'esprit ce problème. C'est suffisamment clair, j'espère. Si cela vous intéresse, j'essaierai d'expliquer au moment des questions pourquoi j'ai fait allusion à l'islam en passant. Eh bien, lorsque la lumière s'est retirée, elle s'est retirée à des niveaux différents d'éloignement ou de proximité de l'être antérieur absolu qui l'entoure, qui entoure le halal. Lorsqu'elle revient, elle rencontrera ces niveaux d'éloignement ou de proximité. C'est une expression très importante dans le vocabulaire traditionnel. Le mal, c'est ce qui est le plus loin de l'être absolu. Le bien, c'est ce qui est le plus proche de l'être absolu. Vous vous rappelez des analyses d'hier soir, le bien étant l'être donnant l'être, le mal étant l'être recevant l'être sans l'avoir mérité. Le sans l'avoir mérité est aussi très important dans cette analyse. Et donc la lumière, retrouvant en revenant ces niveaux d'être d'éloignement ou de proximité, s'irradie à chacun de ces niveaux et apparaît à l'intérieur de la sphère globale du halal, ce que l'on appelle les sphirot, c'est-à-dire les sphères. Vous devinez tout de suite que leur nombre est infini. De même que la lumière antérieure est la substance infiniment une, l'infini, de même que la créature sera située infiniment loin au point de son départ pour pouvoir exister face à l'être, de même, il y a un troisième infini intermédiaire de la distance entre l'infini créateur et l'infini défini de la créature. Le discours kabbaliste a pris pour habitude, je pense, d'exposition pédagogique, l'habitude de les résumer, de récapituler ces infinités de hiérarchie, encore une fois de niveau de proximité ou d'éloignement, en un nombre minimum de 10. Mais ce chiffre de 10 signifie, plus que symbolise, l'infinité de ces hiérarchies. Dans ces 10 sphirotes, il y a deux catégories. Les trois premières, les trois plus hautes, celles qui sont le plus proches de l'être absolu qui renvoie la lumière pour faire exister l'existant, et les 7 inférieurs. Je vais vous les énumérer en vous donnant très brièvement quelques explications en français, en désignant, en suggérant par allusion de quel type, genre de niveau d'être peut-il s'agir. Là encore, cela nous renvoie à des études très longues et très minutieuses et qui, encore une fois, ne peuvent être closes que dans les langues originelles de ce discours, c'est-à-dire l'hébreu et l'araméen. Au niveau le plus supérieur, la première irradiation sphérique qui ferait la première sphère de ce rayon de lumière pouvant enfin subsister comme rayon de lumière dans ce vide infini et ne s'irradiant pas totalement détruisant ce vide infini, vous comprenez donc l'éloignement et la nécessité de l'éloignement, s'appelle en hébreu Keter. Keter signifie, dans, je ne répéterai pas 10 fois, mais la première traduction que je vous donnerai, c'est la traduction des dictionnaires, des équivalences avec ce qui pourrait y avoir d'analogue dans le souvenir de mémoire d'autres traditions se rattachant aux traditions primitives. Ça se traduit par la couronne. C'est ce qui fait que toute valeur est ce qu'elle est comme valeur. On a donné l'image suivante. Un roi habillé, comment dire, de tous ses attributs ne serait pas complètement habillé de ses attributs si la couronne n'était pas posée sur sa tête. Et la couronne est distincte du reste de l'ensemble des attributs du roi. C'est pourquoi la couronne sera dite cachée et ne se pose sur la stature de la créature que lorsque le moment du couronnement a pu arriver. La couronne, qu'est-elle ? C'est la racine de ce qui fait que toute valeur est valeur. Plus bas, le niveau immédiatement inférieur s'appelle la sagesse. Chochma en hébreu. Et encore un peu plus bas, le troisième niveau, s'appelle l'intelligence Bina. Ce sont, encore une fois, les mots d'équivalence que nous pouvons trouver à travers le vocabulaire des dictionnaires. Ces trois valeurs qui garantissent, qui, on pourrait peut-être à la limite dire aussi, qui ensemble forment la couronne de chaque monde, qui garantissent l'existence de chaque monde, sont indépendantes du comportement des créatures au centre, plus bas. Ce sont des valeurs qui sont ce qu'elles sont et à l'abri desquelles chaque monde se trouve, indépendamment du comportement moral des créatures, en particulier pour notre problème de notre destinée, du comportement moral des hommes. En donnant un simple exemple, prenons l'exemple de ce qui fait que le bien est le bien. Le bien manifesté, c'est une sphère beaucoup plus inférieure. Mais, ou prenons un exemple peut-être plus simple intellectuellement. Prenons l'exemple de ce qu'on appelle les connaissances. Et un exemple simple, une connaissance mathématique. Elle reste vraie ou elle est fausse, si elle est objet d'erreur, indépendamment du comportement moral de l'homme qui la pense. C'est-à-dire que ces sphirotes-là, ce qui fait que chaque valeur est une valeur, ce qui fait qu'une connaissance est vraie, ce qui fait qu'elle puisse être connue, eh bien, cela est indépendant du comportement moral des créatures situées au centre de chacun de ces mondes émanés. Elles forment donc une catégorie à part, on les appelle les sphirotes secrètes, cachées, pour indiquer qu'elles ne sont pas atteintes par le comportement moral. Elles ne seront pas objets de ce dont je parlerai dans l'analyse suivante, et vous connaissez certainement l'expression, de l'éclatement des vases, de la brisure des véhicules, Svirata Kelim, dont le résultat a été précisément le chaos, puisque nous sommes en train d'essayer de décrire le processus qui a mené à l'être de chaos qui définit chaque monde. Donc, les premières sphirotes supérieures, les Elyonot, comme on les appelle en hébreu, et qui, n'étant pas atteintes par le comportement individuel des créatures, ne sont pas non plus atteintes par cette brisure des vases, comme l'on dit en traduisant l'expression « Svirata Kelim », sur laquelle je reviendrai immédiatement. Ensuite, se dévoilent les niveaux d'être que nous appelons précisément les valeurs reliées au comportement moral des créatures. Je vous les énumère très brièvement. Elles sont d'abord au nombre de 6, plus une septième. C'est Chesed, la valeur de charité, Gvura, la valeur de rigueur, Tiferet, la valeur de vérité, Netzar, la valeur de permanence, éternité, victoire, Hod, la valeur de splendeur, vous voyez comme la traduction de ces termes n'est pas aisée, et puis Yesod, la valeur de fécondité. Lorsqu'elles sont unifiées ensemble, elles s'appellent vérité. Ou splendeur de la vérité, vous trouvez le terme de Tiferet. Et puis en fin de compte, la dernière, qui est Malchut, qui est la valeur de royauté, de souveraineté. Je les récapitule très brièvement. Keter, couronne, Chochma, sagesse, Bina, intelligence. Ensuite, deuxième catégorie, Chesed, charité, Gvura, rigueur, Tiferet, vérité, Netzar, éternité, Hod, splendeur, Yesod, fécondité. Lorsque c'est unifié, tout cela s'appelle Tiferet, ce qui signifie la splendeur de la vérité, et, en fin de compte, Malchut, souveraineté. Or, lorsque la lumière est revenue, destinée à traverser tous ces niveaux d'être, la lumière, le rayon de lumière, comporte à la fois ces 10 valeurs d'être, ces 10 nuances de la lumière, si j'ose dire. Mais les véhicules de réception de cette lumière ne peuvent, au début de l'histoire du monde, a priori du processus de l'histoire, ne recueillir et ne conserver que la valeur qui correspond à leur identité de créature. C'est pourquoi se produit, dès le retour de la lumière à l'intérieur du halal, la brisure des vases des sphirotes inférieures. Pas les 3, mais les 7 inférieurs. Les kelim, les véhicules, les vases de réception des sphirotes supérieures arrivent à se laisser traverser par l'ensemble des lumières et ne sont pas éclatés, ne sont pas brisés par les lumières qui ne correspondent pas à leur identité de créature parce qu'elles sont suffisamment transparentes, ils sont les kelim en français, suffisamment proches de la source des valeurs pour pouvoir supporter ce traversement. Dès qu'on arrive aux valeurs dites morales, et là je ferai l'analyse un peu plus fouillée, alors dès que les 7 valeurs inférieures arrivent au niveau du Keli de Chesed, le Keli de Chesed éclate. Parce qu'il aurait pu recueillir et porter, supporter la lumière correspondant à cette valeur de Chesed, mais il ne supporte pas les autres valeurs. Et ainsi de suite, mais tout cela est immédiat. Lorsque, ensuite, ce faisceau des valeurs, j'ajoute une phrase, lorsque le Keli de Chesed éclate, la lumière de Chesed remonte à l'infini. Et donc, lorsque les valeurs qui restent, celles de Gvura, Netzar, Hod, mais les suivantes, arrivent au Keli de Gvura, le Keli de Gvura éclate, parce qu'il n'aurait pu supporter que la lumière de Gvura, mais puisqu'on lui offre d'être traversé par les autres aussi, le Keli, le vase ne supporte pas cela, il éclate et la lumière de Gvura remonte. Ainsi de suite jusqu'en bas. Alors, je reprends le texte de la Bible, si c'est suffisamment clair. Voici ce que le Hari Akadosh, j'ai parlé hier de Esraïm, qui est le livre principal du Hari Akadosh, a, dans son commentaire de la Bible, d'ailleurs directement, remis en mémoire pour nous faire comprendre ce qui se passe entre le premier verset et le deuxième verset de la Torah. Je les reprends. Au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre était chaos. Et des cieux, on ne parle plus. Vous avez remarqué cela, je suppose. On va plus tard, dans la reconstitution des mondes, beaucoup plus tard dans le texte, parler des cieux de la terre. Mais ces cieux primordiaux, on n'en parle plus. Pourquoi ? Parce que la lumière de toutes ces sphérotes étant remontée, il n'y a plus de ciel sur terre. Je ne voudrais pas trop accumuler de vocabulaire dans cette analyse, mais suivons, si vous voulez, cette description. Et la dernière sphéra est emplie, pleine, des débris de ces véhicules de réception, des cieux, de ces six valeurs supérieures, la septième étant appelée la Terre, et d'où le deuxième verset, « Et la Terre était chaos ». Le chaos étant le résultat de cette brisure des vases, parce que l'unité des valeurs n'est pas encore accomplie. Vous avez compris donc quelle est la réponse à cette difficulté, c'est que lorsque les créatures ne supportent que la valeur individuelle qui les concerne, il y a brisure des vases. Lorsque les valeurs sont unies, alors il y a restauration des mondes. Voilà déjà l'essentiel de ce premier principe. C'est-à-dire toute l'histoire de la réorganisation du tikkun qui va commencer consiste à un effort pour donner aux véhicules de réception d'êtres, les créatures, la capacité d'être aussi transparent aux valeurs qui ne les concerneraient pas uniquement et d'en faire l'unité. Ça pourrait être dit dans d'autres vocabulaires, mais si c'est suffisamment clair, je crois que nous pouvons avancer. C'est-à-dire qu'au fond, le problème qui nécessairement se pose au monde créé, c'est celui de la réunification des valeurs, de l'unité des valeurs. Vous comprenez pourquoi et jusqu'à quel point ce principe de l'unité des valeurs va rester comme le principe central dominant de toute la tradition de la Bible hébraïque. Reprenons par exemple ce verset si connu. « Écoute Israël, celui que nous reconnaissons comme notre Dieu est le Dieu un. » C'est-à-dire qu'il y a éclatement des valeurs, des absolus, et le rôle donné à la créature, c'est de les unifier. Et nous ne reconnaissons comme principe de souveraineté que l'unité des valeurs et jamais les valeurs isolées. Ce qui donne, d'autre part et immédiatement, un éclairage important à ce que nous appelons, en termes de théologie habituelle, le monothéisme hébreu. Petite parenthèse, vous comprenez pourquoi la tradition hébraïque, à sa suite la tradition talmudique, mais centralement la tradition kabbaliste, a reconnu dans cet éclatement des valeurs l'origine du polythéisme et de l'idolâtrie. Lorsque chaque créature n'est sensible qu'à un aspect de l'unité éclatée, apparaît une idole. Elle est divine dans le sens païen parce qu'à son origine, elle faisait partie de l'unité des valeurs, irreprésentable, elle n'est représentable que comme fragment éclaté, et lorsqu'elle est isolée de cette unité des valeurs, tant que la créature lui prête vie en y croyant, les mythes tiennent leur vie des croyants qui y croient, alors elle agit dans le monde en tant que divinité dévastatrice, les idoles. Et nous voyons donc à la racine même de cette description du processus du chaos, qui s'appelle donc dans le vocabulaire kabbaliste Shvirat HaKelim, la brisure des vases, nous voyons donc à l'origine même quel est le problème qui est posé à la créature. À l'origine de l'histoire du monde, les valeurs sont données nécessairement comme éclatées, parce que l'affinement, la transparence, l'épuration, l'épurement des créatures comme recevant l'être n'est pas encore suffisant pour que l'unité des valeurs les traverse. C'est pourquoi je vous disais précédemment, lorsque les six sphirotes intermédiaires qui vont de Chesed, Gvura, Tiferet, Nesach, Hod, Yesod sont unifiées, alors Malchut peut apparaître et le chaos est résorbé. Voilà donc pour la première analyse. Avant d'aller plus loin, si cela est bien clair, j'ai essayé de montrer que nécessairement, le monde commence son histoire dans l'état de chaos, parce qu'il n'a pas encore mérité d'être, et que le processus de réintégration de cette unité, c'est cela même le processus de restauration des mondes. Or, ce chaos est perpétuel. Il n'est pas seulement ce qui nous est décrit à l'origine de notre monde extérieur comme créé, abri de toute créature. Il est perpétuel pour chaque créature jusqu'à ce que chaque créature ayant réussi pour elle-même, disons dans son chaos intérieur, l'unité des valeurs, la restauration de son monde se fait. C'est pourquoi vous trouverez tellement d'enseignements, en particulier dans le Talmud et le Midrash, indiquant que, au niveau parfois d'une même génération, vivent sur la même terre, dans le même monde, des créatures qui sont déjà pour elles-mêmes de niveaux très différents. Et que certaines d'entre elles sont appelées vivantes déjà de l'ordre de la vie du monde à venir. Mais en olam haba. Le monde extérieur est le même, mais parce que l'unité des valeurs a été restaurée dans chaque fort intérieur, si j'ose dire, alors la créature en question vit déjà lors de la restauration, alors que dans son monde extérieur commun aux autres créatures, il y a encore perpétuellement renouvelé cet état de chaos. Il y a aussi un chaos dans le temps, j'ai l'impression ce soir. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vous lire un texte assez court d'un livre qui s'appelle Orot HaKodesh et qui est la maîtresse du Rav Kook, le Rav Abraham Yitzhak HaKohen Kook, Zichrono Livracha, qui dans notre temps contemporain a formulé pour...